Salut Coco.
Salut Coco. Chaque semaine, les mêmes blagues. Salut Mirza.
Salut Coraline.
Ça va?
Ça va et toi?
Fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode.
C'est en fait.
Oui, ça fait longtemps.
Oui.
Ça fait pire. Avant Noël.
Ouais. Et on est au mois de mars. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, on a une invitée. Salut Maria.
Salut Coraline.
Tu es une femme de 28 ans. Tu fais de la danse, du foro plus précisément. Tu es ingénieure, tu aimes voyager. Et j'ai oublié ce qu'on avait dit d'autre.
Fais du yoga.
Tu fais du yoga. Oui, oui, avec moi.
Parfois.
Une fois, en tout cas. Que finalement, je fais du yoga dans le même studio que toi, plutôt.
C'est ça.
Bienvenue Maria.
Merci. J'allais dire un truc genre bien retrouvé, mais ça marche pas trop.
Eh, tu sais qu'en albanais, il y a une expression pour répondre. Ouais. Ouais.
Bienvenue, bien retrouvé.
C'est genre bien retrouvé. Ouais.
Ah, c'est chou.
Ouais.
Tu veux nous dire ou pas?
Bah, bienvenue, c'est Mirce Vini. Bien retrouvé, c'est Mirce Ujeta.
J'ai l'impression que c'est impossible d'apprendre l'albanais. Enfin, à chaque fois que tu prononces un truc, tu dis, tu sais, tu peux apprendre un truc fun et à chaque fois t'es là.
Non, tu dis.
Ça vaut pas la peine.
À part ça, je comprends. Je peux même pas dire, mais non, c'est facile. Et la prononciation, c'est même pas le pire truc dans l'albanais.
Oui, j'ai compris que l'allemand c'était de la pisse de chat.
En tout cas, c'est plus difficile que l'allemand. Après, je dirais pas de la pisse de chat. Bon, ça on a dévié sur les questions linguistiques. Salut Maria. On est ici aujourd'hui pour traverser ton parcours, qui est celui d'une femme qui a fait des études à l'EPFL, qui est un contexte hautement académique en Suisse, et de ta transition de l'EPFL vers le milieu du travail, et ton expérience lors de ton premier poste, quand tu avais encore 26 ans. Le but est de toucher à des sujets liés à la place des femmes dans l'académie, à la place des femmes dans des domaines professionnels considérés masculins, et d'explorer ensemble des dynamiques de productivité et de performance dont nous devenons toutes et tous, à un moment donné, victimes dans le milieu du travail, j'ai l'impression. Nous allons terminer par parler du sujet du burn-out, qui est une réalité importante actuelle assez présente. Ce qui, je pense, va être intéressant, c'est que de mon côté, j'ai fait également l'EPFL, et je me suis dit que ce sera enfin l'occasion d'en parler. Ce sera, je pense, intéressant pour Coraline aussi, puisque je sais que tu as beaucoup d'avis lié au milieu du travail.
J'ai des avis. Je vais les exposer.
Donc, on va commencer par parler de tes études à l'EPFL, de ton premier job dans une start-up. Comment ça s'est arrêté parce que tu as fait un burn-out, on peut dire ça comme ça? Mm-hmm. Tu t'identifies avec?
Oui, je pense que oui. Ouais.
Ouais. Et puis, donc, on va parler un peu de ta vie aujourd'hui, de comment tu vois le monde professionnel aujourd'hui et comment tu vois ce qui s'est passé. Mm-hmm. Ça te va comme plan?
Oui.
Super.
Du coup, est-ce que tu peux commencer par nous dire ce que tu as étudié à l'EPFL?
Oui. Alors, moi, j'ai fait sciences de la vie. C'est un mélange entre biologie et ingénierie, donc toutes les matières de base de l'ingénieur, mathématiques, physique, programmation, etc.
Ouais.
Mélangé avec la biologie un peu orientée style médecine à apprendre par cœur, etc. Biologie, biochimie, plus orientée du côté humain, c'est-à-dire génétique, oncologie.
Ok, très large.
Très large. En même temps, très focalisé sur les applications pharma. On a très vite fait des labos de recherche où voilà, on manipule des bactéries, on leur fait exprimer certaines protéines et puis c'est okay. Quand même assez cool de toucher assez vite à ça. Mm-hmm. Donc de la manipulation génétique en soi.
La carrière parfaite pour un vilain dans un film de super-héros.
Exactement. Non mais c'est vrai, mais je pense que sur le moment on se rend pas forcément compte, mais ce qui m'a fait prendre du recul, je pense, c'était toute la crise du Covid et où les gens ont enfin réalisé que peut-être des gens qui ont fini sciences de la vie, ils servaient à quelque chose.
Oui, parce que sciences de la vie, il y a cette réputation que c'est un peu
l'entre-deux, un peu un mélange de tout, on comprend pas trop à quoi ça sert. J'ai vu des gens changer leur comportement vis-à-vis de mes études après le Covid, avant le Covid, il y avait une différence.
Trop drôle.
Il y avait beaucoup de femmes en sciences de la vie?
On était quand même 50% de femmes.
Ok, waouh. Un score de l'EPFL est quand même effectivement, je pense, pas mal élevé.
C'est clairement pas mal.
Et puis les profs?
Bah, c'était clairement majoritairement des hommes. Il y avait quelques femmes et je pense que ça m'a même pas marqué parce que j'arrive même pas à me souvenir de toutes.
En architecture, c'est un peu la même chose. Et on était aussi 50% d'étudiantes des femmes. Et par contre, les profs, mais pas du tout, quoi. Enfin, moi, je me rappelle pas vraiment de prof femme. Je sais que j'en ai une en master, mais du coup, t'attends 4 ans pour avoir une prof femme.
Mm-hmm.
Et j'ai aussi un peu des stats que j'ai sorties aujourd'hui qui commencent à dater, donc les choses ont peut-être un peu changé, mais je pense pas royalement. En architecture, il y a 8 ans, 4 femmes occupaient un poste de professeur, tandis que les hommes étaient au 28, et il n'y avait aucune femme qui avait un poste de professeur honoraire ou professeur titulaire. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais qui sont plus solidifiés.
Mm-hmm.
Alors qu'il y avait plein de femmes dans les postes moins prestigieux, genre chargée de cours. Et puis moi, ça, je me rappelle vraiment très bien, en fait, qu'il y avait de temps en temps des profs comme ça qui nous donnaient des cours, des doctorantes, enfin, qui étaient chargées justement d'un cours.
Mm-hmm.
Mais les vrais profs, des cours importants, qui étaient tout le temps là, et qui avaient de l'autorité, du coup, mm-hmm. que les hommes. Et je l'ai déjà dit, je pense, mais ce qui me choque aujourd'hui, c'est à quel point ça me choquait pas à l'époque.
Ouais. Ouais. À quel point c'était juste accepté.
Ouais, c'est pas faux, hein. Du coup, les profs sont des gens qui ont un laboratoire, et oui, il y a peu de femmes qui sont à la tête d'un laboratoire.
Ouais, c'est ça, en architecture, c'est ceux, du coup, qui ont des ateliers, on appelait ça.
Et puis, comment t'as vécu un peu tes études, en général, à l'EPFL ? Comment ça se passait pour toi ?
Alors moi, ça s'est bien passé, le stress de premières années, mais j'ai pas forcément senti de différence ou de discrimination. Mm-hmm. Je pense que la seule fois où j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai pas compris pourquoi ça m'avait autant outré, en fait, c'était quand un prof qui nous faisait les travaux pratiques de physiologie, il nous a fait des statistiques en fonction du genre de nos résultats suite à un examen.
Okay.
Et il nous les avait envoyés par mail. Ça m'a un peu heurté parce que je sais que tous les profs le font derrière, mais là, leur recevoir comme ça en live, je m'attendais pas du tout. Et j'ai pas compris le but, en fait, surtout. Sur le moment, je me disais pas « Oh, il est sexiste oh. ». Ça m'est resté, et je pense que c'est pour ça que ça m'a heurté jusqu'à maintenant. Heureusement que les femmes avaient des meilleures notes, et du coup, elles avaient une meilleure moyenne, mm-hmm. parce que je sais pas trop ce qui se serait sorti dans l'autre sens. Enfin,
Tu penses qu'il essayait de prouver un peu un truc, ou bien ?
Oui, sur le moment, je savais pas. Disons que j'ai eu plus de contacts avec lui après, pour quand je voulais aller checker mes copies d'examen ou discuter de mes notes. Il m'a sorti deux, trois trucs où j'étais un peu mitigée sur son neutralité envers le genre féminin.
Il t'a tenu un peu quoi comme propos ?
Il m'avait fait comprendre qu'en fait, que j'étais pas faite en fait, pour être ingénieure, peut-être.
Okay.
Après discussion avec lui pour comprendre ce qui allait, enfin, ce que j'ai fait faux, etc. Donc, ouais. J'ai pris spécialement un rendez-vous avec lui pour ça, et à la fin, sa conclusion, c'était un peu ça. Et quand j'essayais de creuser, avoir plus d'informations pour comprendre plus en détail qu'est-ce qui n'a pas été, mm-hmm. et je suis sortie, j'étais dépitée.
Des super conseils par un grand pédagogue.
Oui, exactement. Et en plus, ce type n'était même pas prof, quoi. Je ne sais même pas quel était son statut, je ne me rappelle même plus.
Toi, du coup, Nirza, ton vécu à l'EPFL par rapport au sexisme, tu le résumerais comment ?
Je le résumerais que j'ai peu eu d'événements comme tu le décris, comme cette statistique homme-femme ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il y avait un malaise ambiant que je sentais parce que déjà, tu fais des études où toutes les figures d'autorité sont masculines. Je ne sais pas comment tu es censée te sentir bien en tant que femme dans mm-hmm. ce milieu. Donc moi, clairement, j'avais aussi mon propre vécu, puis des choses qui m'appartiennent, mais je pense pas que c'est un contexte où, en tant que meuf, tu te sens à l'aise de tester des trucs, que ça va être bien accueilli, que t'as droit à l'erreur, enfin, t'as pas, mm-hmm. tu sens pas que t'as droit à l'erreur, et c'est très mm-hmm. important de sentir ça en général. Donc moi, je pense que, évidemment, ça jouait pour beaucoup, et ça, c'est au-delà du sexisme. J'ai trouvé que c'était un cirque en architecture à l'EPFL, beaucoup de gens qui n'ont aucun sens de la pédagogie. Il y avait une bande d'assistants, par exemple, de projet, qui disaient des phrases comme ça. « Tu ne deviendras jamais architecte. C'est quoi que tu m'as dessiné là ? Ah non, mais ça, c'est n'importe quoi. » Enfin, vraiment, des trucs que, genre, même si tu n'as pas peut-être vécu en direct, t'entends que d'autres gens les vivent, donc tu sais que tu peux le vivre aussi. Et c'est monstre violent. Mm-hmm. À l'époque, ce n'était pas normalisé, mais c'était plus dans le royaume du possible. Et quand je pense maintenant, je me dis, mais ces gens-là, ils doivent être virés sur le champ. Enfin, je ne comprends pas comment tu peux travailler dans une école de telle réputation et dire à des gars et des meufs de 20 ans, 19 ans, tu ne seras jamais architecte. Donc, qu'est-ce qui te fait croire ?
Oui, c'est clair.
Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux dire ça d'une autre personne, en fait ?
Oui, parce que c'est vrai, maintenant, si tu fais un parallèle, je ne sais pas, le lieu de travail n'est pas un exemple, mais jamais dans un lieu de travail qui est plus ou moins sain, si tu commences, on commence tous à s'insulter, je pense pas que ça sera une bonne ambiance pour le nouveau stagiaire. Donc
ça,
il va pas pouvoir avancer si on commence tous à se traiter de con et puis ne pas savoir où est la limite. Et pourquoi est-ce qu'en académie c'était autorisé ? Parce que... Ouais, pourquoi ?
Parce que moi je pense qu'on vit dans un truc où, entre guillemets, l'excellence égale à souffrance. Et ben, pour faire les PFL, faut baver, tu vois.
Ouais, moi je pense vraiment ça. Ouais. Puis je pense qu'il y a une telle renommée et puis un truc de l'EPFL.
Ouais.
Et en plus, on adore le dire tous les deux ans qui est pire haut dans les charts des écoles polytechniques et des hautes écoles et blablabla. On en fait des caisses depuis l'extérieur, ouais. Hein, si jamais. Je sais pas comment c'est depuis l'intérieur. Mais je pense qu'à ce côté-là, en plus, comme on parlait avant, en fait, d'un bureau d'architecte où le mec est imbuvable parce que t'as de la chance de bosser là, en fait.
Ouais, exactement.
Tu fais partie des élus qui ont été sélectionnés pour travailler ici et tu vas juste subir, en fait.
Bah ouais.
Parce que tu devrais déjà être reconnaissant, reconnaissante d'être là.
Tu crois quoi, que la vie peut être belle ?
Tu crois que la vie peut être sympa ? Tu penses que tu peux profiter durant ton week-end ?
Ouais.
Donc, moi, je pense que c'est ça. Puis effectivement, quand on est dans the hustle culture, quoi, qui aime juste montrer que les gens subissent tout le temps pour avoir la valeur.
Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je me suis souvent posé cette question. Pourquoi, par exemple, les doctorants, ils sont aussi mal payés ? Parce que par rapport à quelqu'un qui a commencé en industrie, tu vois, qui bosse en même temps en industrie, ils sont mm-hmm. mal payés. En fait, de ce que j'ai compris, bah, du coup, on te paye pour les cours que tu donnes, puisque tu dois faire de l'assistanat. un certain nombre d'heures. Mais pour le reste, du coup, tu contribues quand même à la recherche de pointe, quoi. Non, ça, c'est gratuit, du coup.
Ouais.
Ah, oui. J'ai jamais compris.
Non, on te donne la chance de contribuer à la science, alors que finalement,
oui, c'est trop
on te rend service.
Et puis aussi, finalement, quand tu fais ton projet de master, enfin, t'as fini ton cursus d'études, donc tu peux développer quelque chose, tu peux trouver quelque chose, tu contribues à la recherche du labo,
ouais.
Et même ça, on te remercie. Alors, pas du tout, on te pousse. C'est intéressant, parce que c'est intéressant dans le sens qu'on te pousse tout le temps à avoir un esprit critique et on pousse ta réflexion, ce qui est sympa. Mais jamais on te dira, bah merci pour le travail que t'as fait, nous a apporté ça, ça et ça. Faut pas oublier, genre, la science, ça reste quelque chose où parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais des fois on est quand même parfois surpris aussi que ça marche comme on pensait pas. Et enfin, je veux dire, c'est frustrant parce qu'on s'attend pas à tout, donc...
C'est du bol aussi, quoi.
Il y a un truc un peu inconnu. Ouais. Enfin, surtout dans mon domaine, je dirais.
Ouais.
En biologie, c'est essayer de trouver une protéine dans un certain endroit. Tu penses qu'elle est là, peut-être.
Mm-hmm.
Ça reste empirique et c'est... Bah, j'admire les gens qui bossent là-dedans, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie et il n'y a pas forcément des lois comme en physique ou en maths qui vont te prédire où elles sont exactement.
Ok, d'accord, intéressant. Par rapport à ce paradoxe où tu dis tu avances un peu la science mais on te dit même pas merci, enfin on te pousse à réfléchir mais après on te dit pas merci, le paradoxe qui est en archi, c'est qu'il y a ce truc où tu disais à l'extérieur on en fait des caisses. Donc, il y a un côté genre, vous êtes à l'EPFL, visez les étoiles, on nous enseigne que les grands architectes. T'as l'impression que tu vas sortir de là et tu vas faire justement les nouveaux stades olympiques. Mais en parallèle, on te traite. Le paradoxe, c'est qu'on te traite comme un pauvre mouton qui doit fermer sa gueule et faire ce que ton prof te dit, en fait. C'est assez drôle comme paradoxe. Sauf des cas où t'as des profs mecs qui font du favoritisme simplement et ils bandent sur un ou deux étudiants, mais c'est souvent des mecs. Et t'es vraiment là, genre get a room. C'est... Parce que tous les 4 semaines, on présente le projet et t'as des critiques qui sont publiques. Donc tu vois les dynamiques, c'est obvious. C'est pas des trucs qui se passent dans un coin de table, tu vois. Ça se passe devant tout le monde, tous les projets. Il y a des profs qui ont du favoritisme clair et net.
Mm-hmm.
Et en plus, c'est transparent. Pourquoi?
Oui, ça doit être tellement frustrant. Ça doit être encore plus
ridicule.
Frustrant, en fait. Parce que tu te dis, mais ils se cachent même pas, en fait. Ouais. Pour le reste des ingénieurs, c'est vachement plus écrit. Et puis, ok, t'as quelques examens oraux, mais...
Oui, c'est pas tant public.
C'est toujours tête à tête avec le prof, c'est pas, y a pas de...
Puis niveau charge de travail, c'était comment à Sciences de la Vie? Est-ce que c'était crazy ou...
Quand même. Ce qui était plus challenging, c'était le côté où ça mêle deux domaines différents du style. T'as le côté biologie à apprendre par cœur quand même. Après, t'as le côté logique, ce qui reste intéressant, mais tu dois un peu avoir cette ambivalence, je pense. Peut-être la difficulté est plus là par rapport à d'autres...
Plutôt que la charge de travail.
Ouais.
Ok.
Ouais, bah après, oui, la charge de travail, oui. C'était dur la première.
Oui, parce que est-ce qu'aux sciences de la vie, c'est comme en architecture où t'as 42 heures de cours par semaine, en fait? Alors que la plupart des unis, c'est 20 heures de cours par semaine et le reste du temps, c'est pour bosser.
C'est 42 heures de cours?
Oui, tous les jours, t'as 8 heures de cours.
T'as pas du tout le temps de faire tes projets, en fait?
Non, c'est le soir et le week-end.
Ouais, c'est souvent temps libre.
Alors, en archi, c'était ça.
Ah ouais, c'est intense.
Et une fois, et ça je le raconte tout le temps parce que c'est genre le début de la fin pour les gens qui essayent d'avoir une vie saine par rapport au travail. Je me rappelle, en première année, il y a des étudiants qui se sont exprimés et puis qui ont dit, en fait, il y a trop, on a trop à faire. Est-ce normal? Et vraiment, notre prof de première année, qui a vraiment juste fait un discours, « Ah, mais vous savez, c'est ça le métier, c'est dur, mais c'est beau. L'image de l'architecte, il a toujours les yeux rouges, il dort pas. »«
Il prend de la coke.
» Il fait des crises d'angoisse dès le matin. «
Crises d'angoisse. »
Il se réveille à 3 heures du matin.
Après une heure de sommeil.
Ouais. Ça donne envie, dis donc.
C'est drôle que c'est ça qu'on t'apprend. Parce que franchement, quand tu commences tes études, t'es jeune, hein, t'es 18, 20, 19 ans, t'es jeune, donc ça te marque. Et le gars, il essaye même pas de te dire, si vous vous organisez bien, c'est possible. Oui, on peut bosser par période, mais avec des vrais tips pour pas faire des nuits blanches. Mm-hmm. Non, la nuit blanche, en architecture à l'EPFL, était glorifiée.
Ouais, c'est vrai que c'est
sûr. Oui, comme on dit avant, quoi, le sacrifice ultime au nom de rien. Quoi, mais...
Si t'as pas fait nuit blanche, t'es vraiment pas en vrai.
Tu mérites pas ton master.
On nous inculque ce côté... La vie est dure dans les études, alors que c'est censé être comme le moment assez fun, quoi. T'es quand même censé être avec des gens avec qui vous partagez les mêmes passions ou des trucs comme ça, et tu vois, la suite un peu de l'adolescence, du...
Je me rappelle que j'avais passé du bon temps en gymnase. Je trouvais qu'il y avait une ambiance assez saine. En tout cas, pour moi, ça s'était très bien passé dans le sens où je trouvais que... Ok, il y avait de la bienveillance et on apprenait, et puis c'était cool. Et t'arrives à la BFL, c'est rude, quoi. Parce qu'on n'est vraiment pas là pour te porter, on est là pour te mettre à l'épreuve.
The Hunger Games.
C'est The Hunger Games.
Exactement.
Ouais.
Mais du coup, pour répondre à ta question, on avait 2 heures de cours et ensuite 2 heures d'exercice. Donc là, tu pouvais commencer à bosser déjà sur ce que tu avais vu dans les notions en cours.
Une fois que tu as fini tes études, du coup, tu as trouvé facilement du boulot?
Ouais, après, j'avais fini par ma thèse. J'avais défendu ma thèse, du coup, depuis chez moi, parce qu'on était en période Covid. Donc
ah non,
en ligne.
T'as fini en Covid, toi?
Oui. Zoom.
Ah, triste, triste.
J'ai postulé dans une boîte qui s'orientait dans le biomédical, une start-up. Qui était dans ce que j'aspirais, enfin du coup dans le domaine qui m'intéressait le plus, dans la haute technologie, donc technologie de pointe, etc. Et j'ai été prise pour un stage, d'abord de 4 mois. Ensuite, ça s'est prolongé par un CDD, et ensuite ils m'ont pris dans un CDI.
Ici, j'aimerais faire une parenthèse et dire que tu dis le mot start-up. Moi, j'imagine le Grim Reaper, la mort qui vient te voir. Le gif que je t'avais envoyé.
Oui, oui.
Et je vais m'expliquer.
Oui, explique-le.
C'est que pour moi, start-up, c'est synonyme de bosser sans aucune limite et sans aucune règle. C'est synonyme de une bande de mecs à qui on donne le droit de tout faire, donc on leur donne aussi des millions pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et pour moi, c'est aussi synonyme de que sous couvert du fait qu'on vit dans l'âge de la technologie, qui améliore nos vies tous les jours, et que de toute façon, si tu transgresse pas des limites et si tu n'es pas audacieux, on n'atteint rien dans la vie. On glorifie tous les jours des biographies d'hommes qui ont fait la chose auquel personne ne croyait. Il était critiqué de son vivant, mais finalement, maintenant, aujourd'hui, on parle très bien de lui. Que j'ai l'impression que ça donne carte blanche à plein de startups d'être juste toxiques et de faire n'importe quoi parce que, ben, quand t'es sur les bords d'un domaine, qui va te dire comment tu dois te comporter, tu vois? Qui va te dire ce qui est acceptable ou pas? Et du coup, quand tu me dis startup, moi, j'imagine juste... Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que je dis?
Je pense que oui. Maintenant, ma vision de maintenant serait que oui. Et je vois ce que tu veux dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais quand même évoquer peut-être la vision que j'avais moi quand j'étais rentrée dans cette start-up. Parce que j'avais vécu un peu une espèce d'ambiance similaire avec des amis. On avait participé, des autres étudiants sur un projet d'étudiants, à faire notre propre biocapteur. Après, tu le présentes, tu vois, avec des autres étudiants de différents pays. Tu testes ton truc que tu as fait et, en fonction de qui réussit le mieux, il gagne le prix, etc. Moi, j'avais kiffé le côté un peu... oui, tu vois un peu tout sans limite, c'est un peu ça. Et puis, je pense qu'il y a cet aspect de cool de pouvoir se sentir dans cette ambiance open space.
Baby foot.
Moi, j'avais pas de baby. Oui, c'est vrai, il y a un peu un côté où tu es sans limite et puis c'est cool. Ça légitime peut-être d'être dans un milieu où, c'est vrai, il y a que des ingénieurs, en fait, au final, donc... C'est un peu le même type de personne, disons, avec les mêmes... exactement les mêmes compétences, mais à peu près les mêmes dans ce côté, toujours aller vers un perfectionnisme ou faire attention aux détails, ce qui est bien, mais le côté humain peut-être qui est moins mis en évidence déjà.
Mais est-ce que ça sème un peu une culture du sacrifice du coup, parce qu'on fait des grandes choses ici, ou pas?
Je pense que oui, puisque tu dépends de les fonds des investisseurs. T'as des périodes de rush où tu dois présenter un peu ton prototype, et à ce moment-là, tout le monde s'y met, et puis c'est un peu la semaine d'angoisse, un peu comme avant les examens. On doit absolument sortir un prototype qui marche. Tu dois avoir quelque chose qui fonctionne ou qui peut être plus ou moins potable à présenter à des gens, à des investisseurs. Et du coup, là, c'est un moment très intense. T'as l'impression que tu dois faire le truc un peu unique.
Ça, c'est quand même particulier. À chaque fois, devoir sortir un truc qui n'a jamais été fait, qui est unique, qui est nouveau, qui est...
Ou tu dois le vendre comme ça, du coup, mais... L'idée, c'est quand même que la start-up soit le pont entre l'industrie et l'académie. Donc, en général, c'est plutôt pas mal de venir avec une idée que tu as déjà commencé à développer en académie, et ensuite l'industrialiser, parce que là, c'est toute une étape où ça marchera forcément pas, il y a plein de trucs auxquels t'as pas réfléchi. Du coup, la start-up, c'est un peu ça, et j'ai l'impression que, quand même, celles qui ont... cette idée sur laquelle elles mettent leur patent, c'est un peu sur quoi elles vont baser, disons, toute leur promotion après. Et la start-up où j'étais, c'était un peu compliqué parce que je... En fait, ils n'avaient pas vraiment de patent sur une technologie. Et ça, déjà, ça joue aussi sur le truc où tu te dis, mais en fait, où on va? Enfin, je pense... Un tout petit peu.
Dans cette start-up, t'avais dit, bon, toi t'as étudié sciences de la vie, et comme tu disais, c'est assez large, mais toi ce qui t'intéressait, c'était vraiment l'informatique, la programmation.
J'aimais bien ce côté cool de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, sinon je serais pas allée dans cette start-up.
C'est vrai, ok.
Oui, sans limite.
Ok.
En fait, ils m'ont pris sur un stage plutôt en programmation. Et là, c'était quelque chose où je sortais un peu de ma zone de confort parce que, on nous a appris un peu à programmer à l'EPFL, mais pas avec tout. Et là, c'était plutôt, je vous aide de ce côté-là parce que ça me passionne de un peu apprendre sur le tas tout seul. Mais ce qui m'intéresse le plus, ça sera quand même d'être ingénieur en recherche biomédicale. Donc quand même du côté recherche, c'est ce qui m'intéressait, dans le sens d'être à l'interface un peu des domaines et puis travailler sur le biocapteur qui était développé. C'était quand même ça mon but final. Là, c'était un peu, je vais vous aider sur ça, parce que ça m'intéresse quand même un tout petit peu. Maintenant, avec du recul, je pense qu'il y avait le truc où j'étais un peu là, mais c'est sûr que je veux sortir de ma zone de confort. C'est pas quelque chose que je maîtrise à 100%. Et puis, bah, sur le côté programmation, j'étais pas supervisée, mais beaucoup d'employeurs, disons, vont souvent te dire que bah, c'est normal, quoi, les stages.
De pas être supervisée.
Souvent, il y a eu ce discours, les gens disaient, bah, c'est normal de pas avoir forcément quelqu'un qui te suive, alors que si je fais un stage en programmation, c'est pour peut-être m'améliorer là-dedans. Mais là, c'était moi qui implémentais ce qui devait être pas implémenté. Il n'y avait pas quelqu'un qui allait me dire ça c'est mieux, ça c'est pas mieux. En fait, j'apprenais pas d'une expertise ou quelque chose. C'était plutôt leur donner un coup de main pour qu'ils mettent en place le setup qu'ils avaient besoin pour mesurer certains signaux de leur capteur, etc.
Donc du travail presque gratuit, sans en tirer beaucoup de...
Enfin, du travail important venant du stagiaire.
Oui,
ouais, enfin, c'est ça, c'est, tu vas quelque part en disant que tu vas apprendre beaucoup. Je suis sûre que tu apprends aussi en expérimentant, hein, on est bien d'accord. Mais en fait, tu n'as pas vraiment de coaching derrière, quoi.
C'est ça, le souci, c'est que cet apprentissage coûte un peu, je pense, pour ton ego et ta remise aux questions. Et ça, on ne rémunère pas, parce que c'est quand même je pense que c'est quand même une compétence d'apprendre vite. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça, on ne compte pas là-dessus, c'est tes stagiaires, du coup. On ne te rémunère pas plus parce que tu as appris plus vite que quelqu'un d'autre.
Mais quand tu m'as raconté ça, j'étais assez flashée à quel point j'ai vécu la même chose. Donc moi, quand j'ai commencé mon job, ce n'était pas un stage, c'était un vrai job. Comme toi, j'ai voulu sortir de ma zone de confort, j'ai voulu faire un peu plein de choses différentes. Et moi, ce que j'ai fait, l'équivalent de la programmation et l'informatique pour toi, pour moi c'était la direction de travaux, c'est-à-dire faire du chantier. À l'EPFL, c'est tellement académique comme enseignement que tu apprends à faire plein de choses, mais t'apprends pas réellement à construire. Donc j'ai dit que je voulais faire du chantier, on m'a fait confiance, on m'a lancé dans un chantier. Vraiment, tu sors d'EPFL, tu sais pas faire ça, tu sais pas parler aux gens, tu sais pas comment s'appellent les choses très concrètes de la construction, parce que tu parles que de concepts et d'espace et de choses académiques. Donc le passage de l'académie au chantier est assez rude. Et moi, c'est comme tu dis, en vrai, j'ai aimé faire ça parce qu'en vrai, c'est cool d'y arriver, de te sentir forte en fait, de seconde. Tu dis là, ben, j'ai fait ça. Mmh. Par contre, t'es tous les jours en train de te dépasser, tous les jours en train d'apprendre sur le tas, tous les jours en dehors de ta zone de confort. Et je suis d'accord avec toi, ça, c'est un truc qui n'est pas comme mesuré. Mon patron, il m'avait dit, de toute façon, on sait que les EPFL, vous êtes inutiles quand vous arrivez au bureau, mais vous apprenez vite. Donc, on vous fait confiance. Mmh. Moi, j'ai l'impression que le bénéfice que j'ai eu parce que j'apprenais vite, c'était des compliments et plus de travail.
Non.
Parce qu'il y arrive, donc go.
Donc go, ouais. Genre, ça n'a pas un prix, en fait.
C'est ça.
Oui, c'est ça.
T'es jeune, ton prof a 19 ans, il t'a dit, c'est comme ça la vie.
Mais oui, c'est vrai, en fait, c'est ça. L'EPFL t'apprend que cette charge de travail que tu te prends dans la gueule, ça n'a pas un prix. Tu dois t'habituer, puis tu dois tout mettre de côté.
C'est ça.
Parce qu'on se voile pas la face ici. C'est qu'on a été dans un cocon, spécialement moi, où j'ai pu mettre tout le reste entre parenthèses. J'étais financièrement encore chez mes parents, donc voilà. Et puis, je pouvais faire que bosser, et puis voilà.
Mm-hmm. Ouais, être que étudiante.
Être que étudiante, ouais.
Ouais, c'est ça, moi, c'est un truc qui me choque. Les gens parlent un peu d'égalité de chance, parce qu'en Suisse, tu vois, c'est pas comme aux États-Unis où les études coûtent le prix qu'elles devraient coûter si c'était pas subventionné, enfin, payé par l'État, quoi. Mais je suis un peu là, mais il y a pas d'égalité des chances, parce que comment tu peux te permettre de faire un an de stage payé au lance-pierre après 5 ans d'études, plus peut-être une thèse. Enfin, genre, tu peux pas, si t'as pas de l'argent, de la famille qui a de l'argent derrière, tu fais comment? Bah, t'arrêtes.
Ouais, c'est sûr.
Enfin, tu fais un bachelor peut-être et puis tu essaies de trouver du taf où tu dois bosser à côté et du coup tu es pénalisé.
Ouais,
et
puis surtout, bah, c'est des tafs qui sont précaires dans les conditions qui sont données parce que t'es pas disponible non plus à 100%. Puis du coup, tu te retrouves aussi dans des conditions de travail qui sont pas incroyables. Et puis si tu cumules les deux, mais moi j'avais très peu de gens qui étaient en train de cumuler les deux, presque personne, je pense.
Bah, c'est super galère. Enfin, t'as déjà pas le temps de faire tes études, t'as pas le temps de bosser.
Et du coup,
à côté.
Oui, ça filtre. Alors,
Bah, du coup, moi je l'ai fait en partie. Pendant un moment, j'étais bien dans un cocon aussi. Après, je l'ai fait. Et j'y ai pris goût, et je ne l'ai pas fait tout le temps, mais en fait, ça m'a fait un bien psychologique immesurable, parce que ça m'a sorti justement de la bulle EPFL qui était méga nocive, et de toute façon, être dans une bulle, c'est jamais bon. Et c'est là que j'ai connu Coraline.
Yay!
Yay! Tout d'un coup, on bossait en boîte de nuit ensemble, et c'est un milieu et un univers tellement, tellement différent, et tellement génial, et on rigolait, et tu connais des gens différents, qui t'enrichissent différemment, que ça m'a trop aidé à mettre l'EPFL en perspective, et ça m'a aussi aidé à être déjà critique en live, en fait. Pas à sortir d'une bulle comme si tu te réveilles tout d'un coup et de dire oulala, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai pu fermer les yeux sur ça. Enfin, ouais. Ça m'a sorti de ma bulle, en fait. Et c'était mythique. Et c'était trop drôle parce que, ben, on bossait ensemble dans cette boîte de nuit, puis des fois, je voyais plein de potes qui venaient boire bourrés au bar et ils disaient « Ah, Lirza, je sais pas comment tu fais, franchement.
» Tu l'as super bien fait.
Je me suis vraiment transportée. I'm a method actor. Et puis j'étais là, mais en fait, t'es ici aussi. C'est juste que t'es en train de bourrer la gueule.
C'est vrai.
Et moi aussi, je me bourre la gueule, sauf que je suis payée pour. I got money moves.
Smart, hein, smart.
Et ceci dit, entre autres, si j'étais capable de faire du chantier comme ça du jour au lendemain, c'est vraiment grande majorité grâce à mon expérience dans la restauration. Parce que t'apprends à parler à tout le monde. T'apprends à être face à 40 personnes et pas être mal à l'aise.
Mais oui, clairement. Ou bien être à 40 personnes et demander de l'aide que t'as besoin parce que tu gères plus, en fait. À l'EPFL, demander de l'aide, non, ça on t'a jamais appris, je pense.
Je raconte tout ça lié au travail que j'ai fait à côté de mes études pour dire que je suis complètement d'accord avec toi, Coraline, que si on veut parler d'égalité des chances, il faut que le cursus EPFL prenne compte de ça. C'est-à-dire il faut que le cursus soit adapté pour accommoder des besoins d'étudiants et d'étudiantes qui ne peuvent pas se permettre de pas travailler à côté, en fait. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, je partageais mon histoire, pas du tout pour dire que si tu veux, tu peux, c'est possible de bosser à côté, parce que moi, je peux vraiment dire que c'était vraiment très fatigant et je l'ai pas fait tout le long, parce que c'était pas possible de le faire tout le long. Mais par contre, c'était extrêmement bénéfique du point de vue psychologique, mais aussi, est-ce que j'ose dire, même du point de vue intellectuel, parce que ça fait extrêmement du bien de sortir de la bulle, de prendre du recul des choses et de pouvoir garder un espèce d'esprit critique sur les choses. Franchement, c'est un peu la base de toute relation toxique, de vouloir fermer les gens dans une bulle. C'est pas très sain.
Ouais, c'est pas très sain, je suis d'accord. En fait, c'est impressionnant parce que c'est comme un endroit où tu remets en question souvent, mais toi, si tu te remets trop souvent en question,
c'est
ça,
horrible.
Tu peux pas survivre avec ça non plus. Donc, c'est un équilibre un peu bizarre.
On en a déjà parlé. Tu vas dans une start-up, tu es dans une... dans une espèce de régime où t'es tout le temps en train de te dépasser, de te prouver. T'avais parlé aussi, Maria, du stereotypical bias. Parce que moi, je te disais qu'en tant que femme, à l'EPFL, tous tes profs, c'est des mecs. Je trouve que t'es dans une dynamique où tu dois tout le temps te prouver par la, déjà par le système. Enfin, l'école, elle est faite comme ça. Mais en plus, en tant que femme, moi, je trouve que si toutes tes figures d'autorité sont des hommes, tu dois encore plus montrer que t'es une femme, mais t'es pas conne. Moi, je l'aurais jamais dit comme ça à l'époque, mais je pense vraiment que je le sentais comme ça dans mes tripes. Parce que déjà, c'est une école polytechnique, puis c'est connu un peu comment, à quel point les sciences sont vues comme masculines, sauf biologie, chimie, c'est vu comme, elle est vue comme féminine. Mais quand même, je trouve que t'es dans un polytechnique et t'es une femme. Moi, clairement, j'avais l'impression que je devais me prouver plus. Et toi, t'avais parlé du stereotypical bias. Est-ce que tu veux dire quelque chose?
Oui, donc c'est comme s'il y avait un espèce de on se mettait nous-mêmes un double standard, en fait. Vu qu'on est des femmes, on sait que les gens vont potentiellement penser qu'on est des femmes, donc on doit anticiper. On n'a pas trop le droit à l'erreur, je pense. C'est un peu ça. Et tu te mets doublement la pression. Il y avait une expérience qui avait été faite aux États-Unis par certains chercheurs. C'était de dire une certaine phrase aux étudiants avant leur examen, qui était ou liée au genre, ou liée à la culture. Sortir des fausses chiffres statistiques que les hommes réussissent mieux cet examen que les femmes. Juste avant l'examen, la moitié de la classe qui était du genre féminin se foirait plus que le genre masculin. Et aussi, c'était intéressant de voir que, par exemple, s'ils disaient quelque chose relié à la nationalité, s'ils disaient « Ouais, mais les Chinois, ils ont fait un meilleur score à cet examen que les Américains », là aussi, tout le monde se plantait beaucoup plus que si le prof n'avait pas dit ça avant, en fait. Et c'est un peu ce truc, on s'identifie au biais, et du coup, ça nous fait tellement douter qu'on se remettra en question. Et ça, ouais, je pense qu'il y a une question, ça perturbe, quoi, et ça diminue ses capacités cognitives. Peut-être on se dénigre sur le moment, et on arrive moins à... Ouais, se donner ce talent positif pour réussir. Et puis, il y avait un truc super intéressant. L'anticipation, c'est quand même un truc qui... Moi, j'ai l'impression, les femmes, ça peut être un trait qui est vachement plus transmis aux femmes, d'anticiper, de faire scolairement les choses, de venir préparer, etc. Et ça aussi, en fait, je réalisais que ça mettait aussi une autre pression, dans le sens que j'essayais d'anticiper, mais... En réalité, la plupart des gens, ils viennent, ils voient le problème et ensuite ils partent de là. Mais moi, j'essaie d'anticiper les problèmes peut-être qu'il y aura, qui fait partie d'une pensée d'ingénieur, entre guillemets, mais qui aussi rajoute, je pense, une sorte de pression en plus.
Oh, waouh, ok.
Intéressant.
Et je me demandais en fait si c'était un truc qu'on transmet vachement plus aux filles qu'aux hommes, d'être préparé, de pas venir à l'arrache, de pas réfléchir sur le moment, parce qu'il y a bien des choses où on doit se préparer, ok, mais il y a des choses aussi on peut les sortir tout de suite. Mm-hmm. Que les mecs n'hésitent jamais à le faire en fait.
Ouais, c'est vraiment ça.
Et puis c'était un peu le point que je voulais soulever, peut-être okay. Vous allez. Peut-être c'est transposé aussi au domaine du travail, enfin ça rajoute un stress en plus, je sais pas.
Enfin, j'avais jamais pensé que ça pouvait être genré, parce que c'est clair que moi je suis madame anticipation, et que si j'ai pas anticipé, je culpabilise tout ça.
Ouais.
Mais j'avais jamais pensé... Moi je pense que ça fait partie un peu de la charge mentale, enfin c'est un tout, enfin, parce que moi je voyais clairement à mon taf la préparation des hommes versus des femmes, mais comme on voyait à l'école, ou justement pendant vos études, enfin... Mm. Moi, je vois un peu le stéréotype du gars qui vient sans stylo, sans feuille, et puis, tu vois, qui demande un peu à ses voisines.
Oui,
enfin, sans déconner, c'est un peu tout le temps ça, tu vois. Et que, justement, je pense qu'il y a une question de sociabilisation où les femmes sont beaucoup plus, entre guillemets, scolaires, et puis entraînées à être studieuses, et puis à écouter, puis fermer leur gueule, et puis à anticiper les devoirs, les trucs, enfin...
Être préparée, irréprochable, quoi.
Avoir oui, c'est ça.
Avoir son stylo et son papier, quoi.
Je veux dire, mes collègues féminines, elles arrivaient, elles avaient soit le mail sous les yeux, imprimé le truc, checké, elles venaient avec des questions. Les gars, ils venaient, ils savaient pas... Enfin, leurs collègues féminines leur avaient rappelé qu'ils avaient une réunion, et puis ils venaient là en mode... aucune idée, tu vois. J'exagère un petit peu, mais vraiment pas beaucoup.
Mais c'est peut-être le moment de parler de ce truc, en plus qu'une fois t'es en réunion, les femmes sont méga préparées, elles ont plein de questions intelligentes à poser, puis elles s'excusent 40 fois avant de poser la question.
Ouais, vraiment, moi, une fois, ça me choquait, quoi. Je remarquais les dynamiques, enfin, je faisais attention à ça, parce que ça m'intéresse. Justement, des femmes ont des questions très intelligentes, elles ont bien réfléchi au problème, elles faisaient tellement d'introductions. Alors, j'ai juste une question, c'est peut-être bête, hein, c'est peut-être juste, enfin, j'y ai pensé comme ça, et puis vraiment, peut-être ça fait pas du sens, hein. Enfin, je veux pas faire perdre du temps et t'es un peu là, mais pose ta question, t'as le droit de poser une question. Et souvent, c'est des trucs extrêmement pertinents. Ouais. Versus des gars qui sont un peu là, vous avez pensé à ça? Oui, on l'a déjà dit. Hein.
Oui, c'est ça. Avec les hommes, c'est souvent ça. C'est même pas que c'est une question conne, c'est qu'on l'a déjà dit. C'est que c'est acquis, en fait.
Ouais. C'est un peu troublant, je trouve, une fois qu'on y fait attention, à quel point les femmes sont amenées à douter d'elles-mêmes et puis... à devoir tout anticiper, parce que si on leur dit que oui, on a déjà dit ça, en fait, c'est la honte suprême, quoi.
Ouais.
Les mecs survivent très bien à ce genre de choses, quoi.
Ouais, puis il y a un truc par rapport à ce biais stéréotypique. On parle souvent de ce truc où on se met nous-mêmes un double standard, mais c'est pas non plus pour dire qu'il suffit de faire du développement personnel et je sais pas moi, et d'aller chez le psy pour s'enlever son biais stéréotypique. Le biais stéréotypique vient d'abord de la société. Si une femme va se juger trop durement, c'est parce que la société la juge de manière trop dure. C'est un peu la double peine, quoi, pour... Enfin, comme tu l'as dit, en fait, c'est en effet la double peine pour ces gens, parce que et tu intériorises le jugement de la société, et ça fait que tu deviens moins confiante, et tu perds, quoi, en capacité cognitive. Ça, c'est incroyable de se rendre compte de ça. T'avais parlé de ce phénomène que tout d'un coup, t'étais au travail, tu t'es retrouvée, t'as dit vider des femmes autour de toi.
Oui, alors, c'est vrai que, je sais plus quand était venu ce sentiment, je pense pas exactement au début de mon stage, mais peut-être au milieu, j'ai commencé à me dire, mais c'est bizarre, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en même temps, où j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, et à me demander aussi à qui je m'identifie, parce qu'au final... Moi, je fonctionne en tout cas comme ça. Je cherche peut-être une personne modèle, mais peut-être quelqu'un qui m'inspire. Je n'arrivais plus à m'identifier à quelqu'un, en fait. Et je regardais autour de moi et les hommes dans mon travail, non. Et je me disais, mais où, en fait, sont les nanas de 27 ans, 26-27 ans, célibataires, puisque je venais de me retrouver célibataire, dans le monde de l'ingénierie? Parce que, enfin, où sont mes potes, quoi? Est-ce qu'elles sont aussi... Enfin, bref. Et je regardais autour de moi. Bah, par exemple, au parc de l'innovation, où il y a beaucoup de startups... C'est souvent, il y a une personne jeune et puis après, elle est entourée quand même de... C'est un milieu masculin, donc ça reste très d'hommes, etc. De plusieurs âges aussi. Mais c'est vrai que je cherchais un peu à droite, à gauche. J'étais un peu perdue.
Ouais, de nouveau, j'étais flashée par les parallèles de nos parcours. J'ai eu le même vécu. J'ai commencé à travailler. Bah, comme toi, j'avais pris une orientation qui est considérée comme masculine ou connotée masculine dans notre chère société sexiste. c'est-à-dire le chantier. À un moment donné, je l'ai verbalisé au bout d'une année, deux ans. J'ai dit, mais j'en peux plus d'être tout le temps la seule femme dans des salles de conférence. Mmh. Parce que tu vas sur le chantier, ben évidemment, c'est que des hommes. Au bureau, il y a des femmes quand même qui travaillent, mais quand tu es dans des séances pour un projet, ben, tu as l'ingénieur civil, c'est un mec, l'ingénieur chauffage ventilation, c'est un mec, ton patron, c'est un mec, mmh. ton chef de projet, parce que tu es encore junior, c'est un mec, et il y a toi, en fait. Et je me rappelle vraiment que je le verbalisais, j'étais là, j'en peux plus d'être entourée d'hommes. Tout le temps.
Mmh. Ouais.
Donc je comprends ça vraiment.
C'est intéressant ce que tu dis parce que moi je le voyais pas comme ça à ce moment-là. Je me disais pas que c'était un truc de genre, mais quand même c'est vrai que ça me pesait. Genre je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à me retrouver dans l'autre junior qui était aussi mec dans ma startup. Non.
Puis par rapport au fait que les deux on a pris des orientations encore une fois connotées masculines, donc considérées comme cool parce qu'elles sont principalement faites par les mecs. En préparant l'épisode, on s'était dit que ça pose des questions quand même. C'est ce genre de situation où tu te demandes pourquoi tu fais ça. Peux-tu vraiment dire de manière authentique que ça t'intéresse en tant que personne ce que tu fais? Ça pose question.
Oui, il y avait ce syndrome de vouloir, je pense, se dépasser et de pas être le stéréotype de la femme dans un milieu d'ingénieur parce qu'on aurait pu être brimé et puis on voulait pas être exactement comme tout le monde. Je me suis souvent demandé si j'avais fait mes études parce que je pouvais être un peu l'extraterrestre, le mélange un peu cool de la femme qui sort un peu de la norme, qui a fait les études d'ingénieur et qu'elle réussit parce que c'est une femme en fait, et puis de faire ce truc que pas d'autres femmes ont fait. Et je me suis demandé si c'était pas un peu cette vision, disons, de... Ouais, peut-être de gloire ou d'être sur une scène, de se dire... Ah oui, j'ai fait ce truc-là que les autres n'ont pas fait, un peu avec le petit coup d'ego qui se voit renforcé. Mais en fait, au final, ça fait mal parce que c'est un cadeau qui vient tellement peut-être à la fin de toute une souffrance que c'est pas vraiment un cadeau.
Ouais.
On est très vite désillusionnés, je pense.
Se faire violence toute une carrière,
oui,
pour
exactement.
S'élever au-dessus, quoi.
Pour arriver à ce truc-là. Bien sûr, c'est sûr que ça ping-pong avec des pensées de vouloir plaire, ça c'est sûr, je pense. Se demander si, en fait, j'ai fait des études parce que je voulais sortir de la norme et être la meuf particulière, la miss, la femme qui a pris un chemin particulier, ça a été un peu dur. Je pense pas que je suis arrivée à la fin de la réponse, mais c'est un peu compliqué déjà de l'admettre, je pense. Et ouais, ça m'a traversée, quoi.
Ouais, mais pareil. Je pense que la réponse est complexe dans le sens, c'est clair que j'aimais faire ce que je faisais, j'y voyais plein de trucs intéressants. Donc j'ai pas fait ça que parce que j'étais attirée par des trucs masculins, parce que les trucs masculins sont connotés cool. Par contre l'aspect, je déteste tellement les moules que je voulais en sortir, c'était un but en soi d'en sortir. Je pense que c'était beaucoup plus présent du coup. Déjà de faire du chantier en tant que femme, c'était particulier. Tu sais, quand t'arrives dans un nouveau chantier ou t'as une nouvelle entreprise sur le chantier, tu sais qu'ils vont dire ah c'est une femme. Genre c'est certain, parce qu'il y en a vraiment pas. En plus, tous les architectes et toutes les architectes qui sortent de l'EPFL, en principe, font pas de chantier. Parce que le chantier est connoté comme chiant et aussi exécutif. Alors que toi, t'es dans la conception quand tu sors de l'EPFL.
Un peu plus proche des petites gens qui vont faire le bâtiment, quoi.
Exact. Toi, tu exécutes la vision des grandes personnes quand t'es sur le chantier. Et en tant qu'EPFLienne, t'es la grande personne, normalement. Et moi, c'est clair que ça me saoulait trop. Et donc, j'étais là, j'en ai ras-le-bol des idées, j'en ai ras-le-bol des concepts, je veux apprendre à construire. Donc, il y avait ça qui était réel, mais je pense clairement qu'il y avait un peu ce truc que tu dis aussi de faire le truc particulier. Le nombre de fois que j'entendais t'es EPFL et tu fais du chantier, ah c'est intéressant, ça me faisait plaisir, tu vois.
Oui, c'est ça, être contre le cliché, surprendre.
Ouais.
D'ailleurs, j'ai une pote qui me disait aussi, j'adore avoir le vernis à ongles et puis coder en même temps, et puis que je sens que les gens, quand ils voient une femme être plus longtemps à son ordinateur et taper assez vite sur un clavier, certains sont surpris. Et j'étais là, mais oui, c'est vrai, on adore cette image d'être un peu... parce que ça surprend les gens, et puis... Et je peux comprendre, après. Baser des choix sur ça, c'est quand même un peu... C'est là que ça devient un tout petit peu plus compliqué.
Ouais, parce que c'est se demander, en fait, si le choix était authentique.
Ouais.
Enfin, en fait, si t'as fait ça parce que c'était vraiment intéressant, ou est-ce que c'était pour prouver quelque chose.
Ouais.
Ouais.
Je trouve que c'est bizarre quand tu commences à te poser ces questions, où t'es un peu là, mais je fais ça pour qui?
Oui.
Ça, en fait. Et pourquoi, surtout.
Et ça peut aller trop loin comme questionnement, donc t'es un peu là.
Oui.
Peut-être juste un tout petit peu secouer le fondement, mais pas...
Je me suis posé la question, bravo. Et on va passer à autre chose.
Oui, c'est ça. C'est bon, maintenant je peux aller manger du chocolat et oublier.
Enfin, moi, à ce jour, j'ai des trucs qui m'intéressent. Des fois, je me pose la question. Je suis là, mais ça m'intéresse vraiment, ça? Ou je fais ça pour prouver que je suis plus cool?
Ouais.
Bah, c'est une parfaite transition vers un autre truc que tu avais dit, que tu étais dans le stéréotype de la cool girl. Pour rappel, nous on en a parlé ensemble dans l'épisode qui s'appelle Cool Girl vraiment, et j'ai ressorti une nouvelle définition de la cool girl que j'ai trouvée sur Nylon, le site Nylon. Je connais pas du tout ce que c'est. J'espère que c'est pas un truc de turf.
Ça a été sponsorisé par...
Ça a pas été sponsorisé. Donc Nylon dit « La cool girl est une figure massivement entretenue par la pop culture. C'est le fantasme d'une femme toujours fun, détendue et pas prise de tête, ou si on traduit, dont les envies ne s'opposent jamais à celles des hommes qui l'entourent. Ses caractéristiques principales, elle a des intérêts considérés comme masculins, selon les stéréotypes sexistes, ce qui la rend différente des autres filles. » Et c'est pile ce qu'on est en train de dire.
T'es trop différente, en fait. Wow.
Elle ne questionne jamais les comportements de son mec. Et ses désirs s'alignent parfaitement sur les fantasmes qu'il entretient. J'adorais cette phrase, je la trouvais super bien. Enfin, sa personnalité est valorisée pour sa masculinité est contrebalancée par un physique féminin, attirant, qui correspond aux normes de beauté patriarcale. Cet archétype, poussé à l'extrême sur les écrans, prend bien sûr des formes plus nuancées lorsqu'on les retrouve dans la vraie vie. Et toi, t'as dit qu'à cette époque-là, tu étais quand même dans une certaine dynamique de cool girl. Est-ce que tu veux en dire un peu plus ?
Oui. Maintenant, avec du recul, j'aurais dit que c'était plutôt... Ouais, la cool girl, dans le sens, elle rigole à des blagues, même si c'est des blagues un peu limites. même si c'est des trucs où, au bout d'un moment, ça va contre ma limite, pas juste la limite politiquement correcte, mais aussi contre ma propre limite. Et laisser couler. Et je pense que pour moi, ça a pété quand ça marchait plus, en fait. Ça a été une accumulation de domination de ça aussi, en fait, parce que j'ai laissé ça traîner dans un coin de mon subconscient, mais en fait, j'étais pas forcément d'accord, et j'avais pas forcément réfléchi dessus que j'étais pas d'accord. Et que je faisais ça pour être cool, et puis t'es entouré de mecs, donc faut être cool.
Ouais, faut être détendu, puis pas les déranger, quoi.
Ouais, c'est ça, tu peux pas être la criseuse et qu'ils rigolent pas, parce qu'ils vont juste te demander pourquoi tu rigoles pas à leur blague.
De toute façon, c'est pas la blague qui est pourrie, c'est toi qui as pas d'humour.
Donc. Oui, c'est ça.
Et puis t'es moche.
T'es moche.
Et de toute façon, t'étais moche.
Ouais, quand on s'était vu, t'avais dit, quand tu fais la cool girl, faut que tu résolves toutes les incohérences et les contradictions. Et t'y arrives pas, et ça passe par ton corps. Et après, ça pète.
Heureusement que t'as pris des notes. Hein.
Et j'ai noté dans mes notes trop poétiques.
Mais t'as des exemples de, je sais pas, de blagues nulles, de remarques, de petites anecdotes, des trucs un peu comme ça palpables.
Oui, oui, clairement. Je pense que d'abord, c'était plutôt les remarques, par exemple... sur mes habits.
Toujours comme ça.
Je venais au travail et puis je sais pas pourquoi, apparemment moi j'étais là pour faire un défilé de mode et pour que les gens me donnent des... Mais voilà, et puis j'avais le droit à des remarques gênantes sur mes habits au point où bah, des fois j'étais un peu là, moi je remets plus jamais ça parce que bah, moi j'arrête pas de penser à ça et puis si je sais qu'il y a un autre qui pense à ça, ça me saoule quoi, je vais pas remettre cet habit pour ça. Mais oui, alors que cette personne à qui je pense qui venait en t-shirt, il y avait tellement pas de choses, quelque chose à dire là-dessus que je comprends qu'il veut faire des remarques sur quelqu'un qui a plus de choix dans ses habits. Hein. Mais en fait, son opinion m'intéressait pas, en fait. J'avais déjà acheté le vêtement, il était sur moi, donc j'avais donné mon consentement que j'aimais bien. C'était pas quelque chose de discutable, en fait. C'était pas... Je viens avec un truc et on en discute pourquoi je l'ai mis.
Et tu viens surtout pas demander un avis à qui que ce soit.
Une autre chose qui m'avait marqué, c'était une collègue qui m'avait demandé pourquoi je mettais du rouge à lèvres, puisque de toute façon, bah, si je bois quelque chose ou je mange quelque chose, je finissais par le bouffer. Et j'étais un peu heurtée parce qu'elle portait du rouge à lèvres.
Ça, c'est quand même incroyable.
Oui, je sais pas si elle a voulu se rendre intéressante auprès du collègue masculin qui était là avec nous à ce moment-là. Des choses comme ça où tu te dis, mais en fait, c'est d'où tu penses que ton avis m'importe et puis que tu peux le donner comme ça. Je vais te montrer comment faire ton métier et puis je vais aussi te dire comment t'habiller. Ouais, mes expériences personnelles, une fois, j'avais eu un ex qui m'avait dit, ah mais comment est-ce que tu mets ton vernis à ongles là ? Non mais je pense pas que tu le mets comme il faut parce que moi, ma pote, elle m'a montré comment le mettre.
Mais
j'ai fait, ok, vas-y. Il a pris, il a essayé. Ah mais non, ça n'a pas marché parce que tu dois avoir quand même une certaine habitude. Et il s'est excusé. Ok, il s'est au moins excusé. Vraiment, on a été jusque-là.
Il s'appelle comment ?
Non, mais c'est vraiment mythique. Moi, je pense que tu le mets pas juste. Mais combien de fois t'as mis du vernis à ongles dans ta vie, Kevin ? Sans déconner. Non, mais c'est magique. Cette audace à cultiver. Franchement, ils ont tellement d'audace, ils pourraient nous en donner un peu.
On n'en a pas parlé, mais vous étiez 15 et vous étiez 4 femmes, non ?
3 et la RH.
Et tu disais, il y avait vraiment une dynamique un peu court-récré.
Oui, parfois, c'était un peu montrer qui a la plus grande. C'est toujours un peu ces blagues un peu de la cour de récré, oui. Et c'est toujours relié à un phallus, évidemment. t'es là, bon bah du coup tu rigoles parce que tu ne sais pas quoi dire d'autre. Pour moi, ce côté de la cool girl, c'est pas affirmé à un moment où t'as ça atteint ta limite, que c'est bon là, c'est bon, est-ce qu'on doit tout le temps passer le temps à faire des blagues sur les petits pénis et puis les grosses bites, enfin c'est bon là, il doit toujours avoir ce mot dans les blagues à la fin, comment ça se passe? On est au boulot quoi. Ouais. Il y a plein de manières de rire, hein. Il n'est pas obligé de tout le temps sortir ce mot. Je sais pas, je pense que d'un autre côté, hein, dans le subconscient, peut-être ça renforce aussi.
Ça renforce,
bah, le fait que ça soit des blagues sur le sexe masculin, ça renforce la différence en mode genre...
Ah oui, ah oui.
Tu te sens encore plus mal à l'aise et puis tu dis, c'est pas un truc auquel je m'identifie.
T'as tellement une petite bite qu'en fait t'en as pas. Tu fais pas partie du jeu.
C'est parlant ce que tu dis, c'est que être la cool girl, c'est vraiment ne pas affirmer ses limites.
Ouais, et puis dire quand ça te blesse. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où... Bah, la start-up, c'est un peu l'ambiance famille, je sais pas quoi, on est tous proches l'un des autres, j'en sais rien, et un peu cette idée. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'en fait, quand il s'agit de mettre tes limites, c'est hyper compliqué, puisqu'il y a cette idée d'être enfin, que de toute façon, t'as plus besoin de t'affirmer si t'es dans ta famille, tu vois, en quelque sorte. Mm-hmm. Ça devient encore plus compliqué de mettre des limites, du coup. Puis tu passes encore plus pour la rabat-joie, ou je sais pas, Et plus t'essaies de mettre, moins on t'écoute. Je me rappelle aussi, une fois, j'essayais de me concentrer sur un truc au travail, et puis comme j'avais longtemps été cette cool girl, certaines personnes venaient vers moi pour me poser des questions, mais inutiles, du style « T'as vu où était machin ?» Et toi, t'es en train de bosser, puis t'as ton casque, tu veux montrer que t'es pas trop disponible à écouter. Bon, tu te dis « Il a pas compris. » Du coup, tu dis « Bah, je ne sais pas où est machin, mais je suis en train de me concentrer, et là, ça m'aide pas trop ce que tu dis. » Et à dire « Quoi, toi, t'essaies de te concentrer ?» Oui, alors là, je continue d'essayer de me concentrer, mais ça aide pas ce que tu dis. Et puis, enfin, la personne se casse. Ça, c'est après avoir appris comment utiliser cette technique-là. C'est tellement chiant, c'est aussi un exercice et un travail de communication, et c'est aussi lourd de devoir toujours revenir et puis mettre ses limites, même pour des trucs comme ça. Mm-hmm. Et ça, c'est un truc en open space, je pense que malheureusement, ça arrive très très souvent.
Du coup, tu bosses là-bas combien de temps ?
Un an et demi.
Et puis après, tu tombes malade ?
Il y a eu un gros changement de projet dans la start-up. Enfin, création de nouveaux projets, redistribution un tout petit peu des tâches. Aussi, une période d'incertitude, hein, où les gens se demandaient s'ils allaient rester ou pas. Mm-hmm. Après, ce changement de projet, c'était intéressant parce que j'ai eu plus de responsabilités, j'ai été à l'interface de plusieurs domaines de sciences, donc je trouvais ça hyper intéressant et excitant, enfin bref. J'ai senti que c'était un truc où j'étais de nouveau hors de ma zone de confort et que c'était dur parce que c'est possible de partir un peu dans tous les sens et sans limite un peu. Et ça, c'était vraiment dur. Petit à petit, après qu'un mois ou deux de début de projet, je suis tombée malade, disons, je me suis mis en arrêt maladie à 100%. Et après, je suis revenue à 50% pendant 2 mois, puis 75%. Puis après, j'ai été licenciée.
Comment ça s'est passé, ton premier arrêt à 100%? Comment ça a commencé?
J'étais tombée d'abord malade physiquement. J'avais comme une espèce de mini-gastro. Et normalement, c'est quelque chose qui passe en 2-3 jours. Mm-hmm. Et j'ai mis un peu plus de temps, peut-être le double de temps pour récupérer. Et je me suis dit, c'est bizarre quand même. En général, c'est le truc après 3 jours, ça passe quoi. J'ai pris beaucoup de repos. Puis ensuite, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement bien de se reposer.
Waouh,
comme c'était la redécouverte. Puis j'ai réalisé qu'en fait, ouais, je voulais pas retourner du tout au travail, puis que c'était méga très angoissant. À ce moment-là, je le validais pas au niveau du corps, c'était, je pense, très mental, en sous forme de rumination.
Ouais.
Et c'est en discutant avec certaines personnes proches qui m'ont conseillé, bah, si t'as besoin d'une pause, alors prends-la. Et puis je l'ai prise, ça m'a fait un bien fou.
Comment ça s'est passé, cette période d'arrêt, en fait? T'avais un suivi, non? Est-ce que tu veux un peu parler comment ça s'est passé tout ce moment-là?
Ouais, bah j'ai pris du temps pour moi, pour essayer de retrouver une passion aussi pour les choses, parce que c'était un peu le moment où t'arrives, où tout est gris, et puis tu rumines, et voilà, hein, je me suis refocalisée, j'ai fait un peu de la pleine conscience, et ça m'a vachement aidée.
Cool.
Et puis, j'ai testé plein de sports qui m'aidaient à juste penser à autre chose et pas continuer à penser au taf, en dehors du taf, parce que c'était infaisable. Je devais juste déconnecter mon cerveau, il y avait trop de choses qui tournaient en boucle et qui avançaient pas, en fait. Et j'ai pris du temps pour explorer ça et faire des différents sports, voir ce qui m'aide le plus. Et arrêter de stimuler ces neurones-là dans mon cerveau qui tournent et qui, je sais pas, ils veulent faire du cache-cache. Bref.
Du ping-pong. Méditation, sport.
Ouais.
Sport à l'extérieur aussi, non? Ça t'a aidé?
Ouais, puis aussi, par exemple, j'ai été à la bibliothèque, j'ai été chercher des BD, lire des trucs sympas avant de se coucher, créer d'autres habitudes, en fait, qui sont un tout petit peu plus saines.
Trop cool, ça a l'air cool.
Parce que je sentais que mon cerveau ne pouvait juste plus, en fait, et je ne pouvais juste plus faire les mêmes choses cognitivement qu'avant, quoi. Donc c'est un peu... Ouais. Les calculs, c'était trop compliqué. En fait, ce qui était très dur à lâcher, c'était de se dire... Dans un milieu où dans une famille ou dans une éducation, on a toujours mis l'intellectuel sur la première place, avant toute une intelligence émotionnelle ou autre chose, etc. C'était très dur de se voir, soi-disant, comme ça, alors que ça allait très bien. J'étais pas non plus paralysée, Dieu soit loué, enfin, je pouvais encore marcher, je pouvais sortir. Disons, j'avais encore le physique qui pouvait me ramener quelque part. Et petit à petit, tu te rends compte, enfin, j'ai réalisé que c'était pas le plus compliqué, disons. Mais c'était très dur de pas non plus s'autocritiquer dans ce moment-là, parce qu'on sent qu'il y a une différence cognitivement, et ça crée encore plus d'angoisse à revenir, parce que tu sens que t'es pas 100% là, donc tu sens que tu seras pas au top, et tu sais que c'est un milieu qui demande un peu au top, et
t'es revenu à 50%, c'est ça?
Pendant 2 mois, et ensuite les 2 derniers mois à 75%.
Et quand t'es revenu à 50%, ce qui est marrant, c'est que t'avais raconté que c'est toi qui les as sollicités pour que tu leur donnes un feedback sur ce qui s'est passé.
Donc j'ai cherché tout seul à comprendre un peu ce qui se passait, pourquoi aussi de mon côté ça a pas été, disons. Mais j'ai aussi été chercher l'information, chercher à comprendre comment on marchait, quel était un bon management en start-up, etc. Et j'ai réussi à à ajuster pour moi un environnement qui marchait mieux. Et voilà, à me mettre des tâches plus petites sur 2 semaines, etc. Mais en gros, j'avais l'impression que c'était moi qui étais proactive dans ce sens-là. Et puis, encore une fois, si je parlais de micromanagement ou que j'avais besoin de ça, c'était direct « Quoi ? Mais non, mais... » Tu peux pas avoir besoin de ça, ou t'es dans une start-up, enfin bref.
Ah, y avait une exigence à être très indépendante.
Oui, puis il y a un peu le cliché de genre le micromanagement c'est mal, alors que je pense que chaque personne a besoin d'une forme de management qui diffère, quoi. Donc si t'es manager, c'est à toi de juste accepter que tu dis oui ou non si t'as des ressources à mettre en plus pour ces personnes-là, et puis voilà. Et puis j'ai un peu fait mes propres démarches pour demander si je pouvais avoir des ressources en plus, des gens avec qui... je pouvais discuter en plus et puis gérer mes projets. Enfin, en gros, j'étais à chaud dans le problème et j'essayais de ramener des solutions à chaud, ce qui était intéressant, mais c'était aussi très stressant. Ouais.
Mais ça veut dire que quelque part, tu comprenais que le problème, c'était quand même le contexte.
Oui, d'un côté, oui, mais d'un côté, non, en fait. Je pouvais pas lâcher le truc à me dire « j'ai pas le contrôle dessus ». Ouais, je pense que c'est ça, en fait.
Que tu te disais que moi, je peux faire quelque chose et ça va améliorer la situation.
C'est ça. Donc, ils ont pas forcément demandé... ce que je peux comprendre d'un certain point de vue, s'ils pensaient que c'était trop délicat de demander pourquoi j'étais partie, etc. Mais j'ai quand même trouvé ça un peu étrange qu'ils ne se demandent pas que dans le doute si c'était eux qui avaient été le milieu du travail le problème, qu'ils mettent quelque chose en place. Du coup, c'est moi qui suis plutôt revenue avec un feedback. J'ai dit en gros les choses que j'ai aimées, les choses qui m'ont un peu plus impacté et qui m'ont stressé et qui m'ont, je pense, mené à ce point-là. Et puis ce que je demandais, quoi. Donc voilà, des meetings plus fréquents pour voir ce qu'il y a à mettre en priorité, etc. Ce qui... normalement, doit être fait parce que ça change tellement vite qu'un manager devrait être en train de dire « Ok, cette semaine, on va mettre la priorité sur ça, la semaine prochaine sur ça. » Puisque le manager a normalement la vision globale, quoi.
Et ça a été accueilli comment ?
Pour moi, c'était très stressant. Moi, je tremblais à moitié. Je pense que j'ai été faire ce feedback. Mais j'étais contente de le faire. Je l'avais travaillé. J'avais réfléchi à des points. Enfin, voilà, c'était pas un truc où je suis allée. C'était très réfléchi. C'était un peu sur la défensive, ce qui m'a... un peu déçu, disons, mais on m'a quand même donné les choses que j'avais demandé, les ressources que j'avais demandé. Je dirais de ce point de vue-là, positif, mais la hiérarchie supérieure a essayé de s'allier entre elles pour montrer une cohérence. Et puis que voilà, si je disais noir sur blanc qu'il y avait peut-être besoin d'un peu plus de micromanaging, ça s'entendait un peu sur la discussion de sur les valeurs du manager, s'il voulait ou pas faire du micromanaging. Ce que je trouve que ça, c'était pas une discussion, c'était un peu j'ai besoin de ça. Et puis, il aurait dû avoir un accueil du style « quand on réfléchit comment mettre ça en place ?» Quand quelqu'un demande et puis dit qu'il a besoin, en général, c'est un peu moche de dire, enfin de commencer à discuter s'il a vraiment besoin de ça ou pas.
Ouais, c'est moche, d'accord.
Ouais, qu'il y croyait pas comme valeur universelle, disons, que ça pouvait marcher ou que...
ouais, ça c'est moche.
Et après, t'as augmenté gentiment ton pourcentage.
J'étais à 75% quand ils m'ont licencié.
Puis qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux dire un mot? Comment tu vois, toi, ton licenciement?
Ouais, donc, comme je l'ai dit avant, il y a eu plusieurs choses aussi dans ma vie privée qui s'étaient passées en même temps. Mm-hmm. Ça m'a clairement impacté. Ça a un peu fait vriller tous mes piliers, mes fondations, mes valeurs. Je remettais beaucoup de choses en question. Je pense que les licenciements, ça a été... Moi, je me faisais la réflexion, en fait, qu'eux n'avaient pas quelqu'un qui était autant productif que ce qu'ils avaient besoin. Ils avaient engagé, en plus, quelqu'un à 40% après mon mois où j'étais en arrêt maladie pour aider l'équipe, en fait. Je trouve que c'est bien, mais ça s'est fait dans une manière un peu bizarre, l'accueil. C'était ça, c'est une autre anecdote, je pense, à raconter. Ils ne savaient pas sur combien de temps ça allait peut-être s'étaler. Et aussi, ils ont fermé le projet sur lequel j'étais et ils m'ont proposé un autre, mais moi je voyais pas forcément un moyen d'évoluer ou un intérêt pour cet autre projet. Et du coup, je leur ai dit clairement que je voulais plus faire de la recherche pure et dure. Et là, à ce moment-là, je pense qu'ils ont plus vu de potentiel en moi de cette personne qui peut faire 1000 trucs à la fois et qui a la casquette, qui peut aussi dépanner du côté recherche en laboratoire et puis dépanner du côté informatique. Et du coup, à ce moment-là, ils se sont dit. Ça vaut plus la peine. Et puis, ils m'avaient dit, on peut prolonger jusqu'à la fin de l'année, mais ensuite, économiquement, on peut plutôt garder, quoi.
Alors que tu les as vus embaucher quelqu'un d'autre, non?
C'est un peu quelque chose que j'ai découvert sur le tas en revenant du boulot par des mails. Il n'y a personne qui m'avait briefé. Mm-hmm. Ce qui est aussi un peu spécial, je trouve. C'est moi qui l'ai accueilli, en plus, le manager devait la retrouver, il avait du retard, du coup c'est moi qui l'ai accueilli, et vu que c'était une amie, je ne demandais pas, mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, en fait, je viens pour remplacer quelqu'un.
Who must that be?
Et moi,
ce quelqu'un, c'est moi.
Et moi j'étais là, je n'arrive même plus à parler, je pense que ça doit être moi.
Une grosse ambiance.
Grosse ambiance.
Ton histoire, non mais ça part vraiment... À quel point c'est pas les gens qui sont au centre de leur réflexion. Il n'y a pas de réflexion de merde, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ses conditions. Ce genre de profil-là ne lui intéresse plus, elle aimerait faire autre chose, puis ils ne se disent pas, attends, comment on peut mieux valoriser Maria et travailler pour lui donner un rôle qui lui convient, qu'elle va aimer et dans lequel elle va thrive, et puis elle va donner le meilleur d'elle-même. Non, c'est plutôt vraiment genre, bon déjà t'es parti en arrêt, c'est pas top, et en plus tu fais plus le job que nous on veut que tu fasses, donc bye. Enfin, je trouve ça assez violent quand même.
Ouais.
Mais c'est pas les seuls à faire ça, hein. Et c'est pas oui, toi, t'es pas la seule à avoir vécu un truc comme ça. Enfin.
Parce que, en plus, c'est paradoxal, genre, on avait des super bons résultats sur le projet sur quoi j'étais en train de faire, parce que la science, des fois, ça marche quand tu t'attends pas. Et là, vraiment, c'était ça un peu l'ironie du sort, c'est que on avait plutôt des bons résultats, mais on m'a même pas forcément prévenu que le projet allait fermer. Je me suis retrouvée plutôt dans un grand meeting. Et là, ils ont un peu et j'étais un peu là, ok, bon, bah merci. Apparemment, ils ferment. J'étais à un point de détachement, j'étais un peu là, bon. Dès qu'en fait, il y a eu le moment où j'ai pris position et j'ai dit, je veux plus faire de recherche et développement de ce côté-là, ils se sont dit, ah. Et je pense que c'est ça, elle a plus la multicasquette, elle veut plus...
Elle pose des limites, en fait.
Ouais, elle pose des limites, en fait.
Ouais. How dare you.
Je trouve choquant comme dans certaines entreprises, il y a un côté tellement déshumanisant. Je trouve qu'il y a tellement de trucs qui sont passifs-agressifs. Toi, t'apprends en séance que ton projet va plus faire. Il n'y a pas un côté de parler aux gens avant. Mm. Enfin, moi, j'ai aussi clairement appris en réunion que, en gros, mon poste allait changer complètement puis que j'avais plus d'avenir, quoi. What about heads up, people?
Oui, c'est ça.
Pourquoi pas une réunion privée plutôt qu'un espèce de bashing public? Vraiment, ça fait mal.
Mais ils pensent vraiment que les gens, ils vont être là. Ah, ok, d'accord. Bon.
Ah ouais. Moving on.
Bon, je voulais aussi partager que j'avais aussi traversé une grosse période de trop-plein dans mon ancien job. Et j'avais réalisé ce que je traversais d'ailleurs grâce au fait qu'on parle de plus en plus de burn-out. J'observais ce que je vivais et j'étais là, mais en fait, ça c'est tout des symptômes de burn-out dont j'entends parler partout. J'aimerais quand même dire que, à part la charge de travail que j'avais à l'époque qui était immense, ce qui s'était passé aussi en parallèle, c'est plein de dynamiques sexistes au travail qui m'étaient vraiment insupportables et je l'avais exprimé ça. Donc en fait, c'est pas juste la charge de travail, mais c'est aussi comment tu es traité au travail. Et je pense que c'est pas du tout un hasard que statistiquement, en Suisse, le burn-out touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Mais pour revenir à mon histoire, qui date d'il y a 3 ans, comme ça, ce qui s'était passé, c'est que j'avais vu que je butais vraiment contre un mur. Donc j'avais été voir mon patron et puis j'avais dit que ça allait pas. Et il avait été très cool, il m'avait dit « T'aurais besoin de quoi maintenant tout de suite ?» Et j'ai dit « Enlevez-moi ce projet, j'avais un projet clairement de trop, et je passe à 80 direct tout de suite, dès que possible. » Et il me l'avait vraiment arrangé assez rapidement. Mais maintenant, quand j'y pense, j'aurais pas dû baisser à 80, j'aurais dû demander un arrêt 80 pour être payée quand même. Mais bref, tu vois, ça, c'est un autre souci. Mais donc, vraiment, c'est super. Il m'a dit, prends le temps qu'il te faut à 80. Et après, on avait trouvé un arrangement où, donc, ce fameux projet, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et d'ailleurs, il m'a dit, du coup, je vais le donner à telle et telle personne, et du coup, je vais refuser un autre projet. Parce qu'en effet, si tu veux traiter les gens comme des gens, bah, tu refuses du travail. Si tu veux bourrer les gens de travail, bah, moi, je prends tous les projets. Et du coup, il refuse pas à l'autre client, et c'est plus de thunes, en fait.
Oui,
sur mon dos, finalement.
En fait, ouais, mais en fait, il n'y a pas de limite.
Et du coup, il n'y a pas de limite. La limite, c'est nous, en fait.
Ouais,
c'est nous qui les posons. Les...
Ouais, exactement.
Il était vraiment genre aucun regret. Non, mais on va dire non à l'autre, et puis c'est tout. Et c'était super. Mm-hmm. Et après, moi, j'avais trouvé un équilibre. J'avais demandé de passer à 90% et j'avais un vendredi sur deux. En revanche, ce que j'avais quand même remarqué, et c'est ça qui était plus vivable pour moi, c'est que moi, j'avais besoin d'un changement de culture profond. Je ne peux pas dépendre d'un patron qui est vraiment sympa, on s'entend bien, et du coup, je lui demande des trucs et il les fait. Enfin, j'ai besoin d'un changement de culture. La culture était vraiment pas là. Je me rappelle le dernier truc qui m'est resté en tête. Avant Noël, le dernier Noël que j'ai fait à ce boulot, il y a un chef de projet qui vient me dire « Ah, tel et tel associé m'a dit que de voir avec toi parce que tu aurais le temps de t'occuper de ce projet-là. » J'ai dit « Cool !» En plus, c'était un cool projet, c'était un beau projet. Puis il m'a dit « Il y a ça à faire. » Puis je lui ai dit « C'est pour quand ?» C'était mi-décembre. Et il m'a dit « Ben, avant Noël !» Et moi, je l'ai regardé. Et ça m'a tellement saoulé cette blague. Tu peux pas faire des blagues comme ça. Tu peux pas faire la blague qu'un travail immense, il doit être fait en deux semaines. C'est juste pas drôle, en fait. Dude, t'es nocif, tu es toxique, tu es le problème. J'en avais parlé à mon patron à un moment donné. Il était là, mais non, mais c'est une blague. J'étais là, it's not funny. Vraiment, j'en pouvais plus. Et d'ailleurs, le job que je devais soi-disant faire avant Noël, il a pris 3 mois. Parce que c'était un grand job.
Bah oui.
Et qu'en plus... Tu commences le job, il s'avère que tu as besoin d'experts et d'expertes, tu mandates d'autres gens, parce que tu sais pas tout. En tant qu'architecte, tu as besoin de l'expert bois, de l'expert pierre.
Mais ça, c'est pas une surprise. Enfin, je veux dire, lui, il pensait quoi qu'en 2 semaines et en plus, les 2 semaines avant Noël, c'est affreux au travail. Genre...
Mais oui.
C'est genre, tout le monde est déjà en mode vacances, et puis tu appelles les gens, mais ils répondent pas.
Enfin, oui,
tout
exactement.
Tous les entreprises sont surmenées.
Et les clients n'étaient pas disponibles, donc finalement, on a présenté ce travail genre en avril.
Bah oui, normal.
J'étais là vraiment, it's not. Funny, ça me saoulait trop. Et il y a eu plein de trucs comme ça, je pouvais plus.
Ouais.
Même si moi, on m'avait vraiment bien traité. Hein. Mais ça dépendait d'une personne qui était cool et qui m'a écoutée parce qu'il m'aime bien aussi. Mm-hmm. Parce que je suis privilégiée, en fait. Et je trouve ça trop chaud.
Mais je pense qu'il y a ce côté trop accepté, en fait, qu'il faut juste faire tout.
Ouais.
Tout trop vite. Et dans le stress absolu. Et ça me fait penser aux offres d'emploi que je lis.
Oui, vas-y.
Et qui me font marrer. Du coup, je cherche du boulot et je vois des offres d'emploi. Et vraiment, je lis des fois un peu entre les lignes. Et des fois, il n'y a juste pas besoin de lire entre les lignes. En fait.
Il faut lire les lignes.
Il faut juste lire ce qui est écrit. J'en ai plusieurs qui sont assez magiques, je trouve, et qui sont un peu toxiques à des niveaux différents. Genre, je regardais sur une entreprise. Sous valeur de l'entreprise, c'était écrit « Nous aimons notre travail et nous travaillons dur, car nous pensons que notre travail nous aide à nous développer sur le plan personnel. »
Ah oui, ça c'est excellent.
T'es là, mais...
Ah ouais, d'accord, what le niveau.
Fuck.
C'est vraiment la mort à toquer à ma porte.
Oui, c'est vraiment... J'imagine trop le brief du... En fait, on aimerait juste que tu leur fasses comprendre qu'il faut qu'ils bossent dur pour être heureux. Mais chez nous, il y en a une, c'était une entreprise, c'était écrit, c'est en anglais. You will work in an exciting and fast-paced environment where you will have the opportunity to take on high responsibility and learn more than ever on a broad spectrum of topics. Je sens le truc un peu comme toi t'avais, où t'as un peu toutes les casquettes, tu vas un peu apprendre tout, tu vas boucher les trous et tu vas surtout bosser trop dur. Moi, quand je voyais des trucs genre fast-paced environment...
Tu t'imagines courir dans tous les sens.
Exigeant, ambitieux, je suis vraiment en mode genre... Un autre... Ah, mais je pense que c'était la même entreprise où c'était écrit qui cherchait quelqu'un de motivated and open to the dynamic startup environment. Non, pas moi. Maintenant, mon truc préféré, c'est regarder où ils demandent d'être résistant au stress dans des tafs. Là, j'ai marqué, c'était pour un poste de marketing dans une agence immobilière. C'était un poste à un taux réduit, genre de 40 à 60%. Et ils mettent flexible et résistant au stress.
Il se passait quoi?
Mais qu'est-ce qui se passe pour que vous ayez besoin de quelqu'un qui soit résistant au stress pour un poste à 40%, quoi?
C'est vrai.
Et là, mais vraiment, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis curieuse d'aller en entretien pour demander aux gens pourquoi? Parce que vous êtes mal organisé, puis que tout d'un coup, il faut faire les trucs à la derrière.
En fait, oui.
Oh, puis ça sent tellement que c'est les heures supplémentaires qui sont pas payées.
Exactement. En fait, c'est pas un 40, c'est un 80, mais payé comme un 60.
Oui.
Et puis en même temps, en plus, t'as des patrons trop cons qui débarquent dans ton bureau le vendredi à 15h en te disant qu'il faut qu'il y ait un truc prêt pour eux dans 2 heures, quoi. Tu sens le truc de l'enfer. Et puis vraiment, tu lis les offres et t'es un peu là. Mais 50%, elles sont juste toxiques, quoi.
Mais le pire, c'est que pour l'exemple que tu donnais avant, le truc du rythme cardiaque, nos startups, je sais pas quoi, de haute fréquence.
Ouais, fast-paced.
Le pire, c'est que instinctivement, t'as envie de faire. Mais bien sûr, c'est trop cool, qui ne tiendrait pas. Cette espèce de mini-ego qui est trop bête et qui réagit super vite et qui te dit « Mais oui, je peux le faire, tu vois. »
Ouais, c'est clair, t'as envie.
Je suis une multicasquette, moi je peux tout faire.
Ouais, ouais. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai ressenti avec mon premier, disons, poste de bureau, quoi. C'est ce côté où t'as envie de pouvoir prouver que tu peux le faire. Parce que, je sais pas, syndrome de l'imposteur. Et puis que tu te dis que si tu fais un taf, il va falloir payer, quoi, de ton âme.
Oui.
Et tu payes de ton âme, d'ailleurs.
Oui, alors que tu fais un service... Mm-hmm. Tu es rémunéré pour ce service, c'est tout.
Oui, c'est ça. C'est ce que ma coach me disait, elle était un peu là. Il n'y a pas besoin de faire le 110%.
Ouais, de laisser ton âme au travail. Ouais.
Don't go the extra mile. Just go the regular mile. Et c'est un succès si c'est fait.
Mais oui.
Mais oui.
Moi, cette année, je suis assez fière de moi parce que j'ai pas couru comme une poule sans tête avant Noël. Non, mais parce qu'il y a toujours ce truc, avant Noël, c'est le rush. Puis en effet, il y a deux, trois trucs qu'il faut faire avant Noël. Donc, typiquement des trucs de finance ou je sais pas quoi.
Mm-hmm.
Et j'ai anticipé, je les ai faits. Les derniers jours avant Noël, moi, j'ai plutôt ralenti qu'accéléré. J'ai remarqué autour de moi, mais les gens, c'était en mode urgence totale, totale, totale. C'est là, mais on n'est pas un hôpital ici, j'arrêtais pas de dire ça. J'ai quand même un truc en moi qui me dit que, sauf vraiment des échéances qui sont claires, je pense qu'on se fout la pression tout seul nous-mêmes, en fait. Ah, je dois faire ça avant Noël.
Non, mais c'est une
et t'es là, genre, mais si c'est fait le 9 janvier, qu'est-ce qui se passe?
De toute façon, il se passe rien en janvier.
Il se passe rien en janvier. Non, mais
moi, c'est clair, j'ai eu ça plusieurs fois aussi à mon taf, ouais. Où t'es un peu là. Après ça, on n'est pas un service d'urgence.
Non.
Enfin, vraiment, il y a un moment, si c'est pas fait, vraiment, la terre s'arrête pas de tourner, quoi. Bah, je sais pas, on parlait récemment de ça avec ma meilleure amie, où en mode, en fait, tout va tellement plus vite maintenant. Avant, on parlait de sa mère qui était secrétaire. Tu devais faire des choses. Alors oui, tu pouvais téléphoner, mais il y a des choses, tu faisais des lettres, on te dictait ta lettre, tu l'écrivais, tu l'envoyais à la poste, fallait attendre des heures que ça ouvre, tu recevais une réponse. Enfin, c'est des trucs, genre, ça prenait des jours. Maintenant, il y a des gens, vraiment, moi, quand j'envoyais des emails puis qu'on me répondait dans les 10 minutes, j'étais un peu là, genre, je ne te réponds plus pour le reste de la journée.
Évidemment, t'es allé vite, ça te regarde.
Moi, c'est 24 heures de réponse. Si t'as de la chance. Et puis, si ça prend plus de temps, il ne se passe rien.
Oui, en fait, oui.
Oui, puis je pense vraiment que ça doit faire partie de tes compétences de savoir les deux, trois choses auxquelles, en effet, il faut être réactif.
Oui.
Et pas être comme ça, dans qui vive pour tout, en fait.
Mm-hmm.
Non, mais c'est ça, en fait, c'est hyper intéressant ce que vous dites, parce que s'il y avait quelqu'un qui réfléchissait en manager, en peut-être de gens, qu'en fait, se mettre le stress avant Noël, ça servait à rien, parce que de toute façon, personne répond. Tout le monde envoie des trucs, mais en fait, ça stresse les autres qui les reçoivent parce que de toute façon,
ouais. Ils
vont pas pouvoir répondre parce qu'ils ont d'autres, je sais pas combien d'autres.
Ah, tu vois plus rien. La dernière semaine de Noël, tes yeux font tout pas pareil. C'est triste parce que les trois ici, on a dû prendre cher pour vraiment comprendre. Et puis, pas parce qu'on est conne, mais parce qu'on nous éduque vraiment à taffer comme ça.
Mm-hmm.
Et du coup, tu prends cher et t'es là, genre, non, mais attends, deux secondes. Fin...
C'est quoi cette merde?
C'est quoi cette histoire?
C'est encore moi? Non, mais attends, un moment là. C'est ça qui est fascinant, c'est une espèce de propagande qu'il faut être super performant, qui est là depuis 200 ans, depuis l'ère industrielle, quoi. Alors qu'on peut même pas comparer nos conditions de travail à ce moment-là, quoi. Ils sont battus pour avoir un week-end, et nous, depuis, on n'a plus évolué, quoi, alors qu'on fait plus les mêmes métiers. C'est hallucinant, quand même.
Moi, je suis 100% d'accord avec toi.
Et moi, c'est que récemment que je me suis rendu compte que, ouais, cette espèce de propagande, elle est inconsciemment en nous, en fait. On la recrache, alors qu'on la remet pas en question depuis autant longtemps. C'est quand même hallucinant. C'est comme s'il y avait un espèce de protectorat du travail. Enfin, dire qu'on s'ennuie au travail ou qu'on n'aime pas le travail ou qu'on bosse pas, c'est genre l'insulte ultime, quoi.
Ouais.
Ah ouais, je trouve que c'est vraiment un tabou dont on parle pas assez. De dire j'aime pas travailler ou je suis pas productive.
Ouais, aujourd'hui, j'ai décidé de pas bosser ces deux dernières heures.
Et dire je suis pas productive, pas en mode genre oh là là, bah, je suis trop nulle.
Ouais.
Mais moi, une époque avec Abby, qui est venue au podcast plusieurs fois, et une autre pote, Lisa, vraiment tous les jours, on était là, alors productif combien aujourd'hui? On était là, 20%. Puis on se marrait trop avec ça. Et c'était vraiment comme un acte de rébellion.
Mais je trouve ça tellement sain.
Ouais, c'est
sain. Moi, ça me fait tellement du bien. Parce que vraiment, genre, tu vois un peu des collègues, tu les captes un peu, puis t'es un peu là. Mais t'as pas l'air de bosser beaucoup, en fait. Mais en même temps, personne dit rien. Et c'est un peu bizarre. Et puis toi, tu culpabilises parce que, en vrai, personne n'est efficace 8 heures. Je répète ça. Personne n'est efficace 8 heures.
Kevin. Je suis d'accord.
tout le monde. Il y a un espèce de côté genre, tu dois prétendre ah, j'ai vraiment beaucoup bossé, hein, je cours partout. Et puis on valorise ça, mais souvent t'es un peu là, mais peut-être parce que t'es mal organisé et puis que. et puis que c'est pas très intéressant. Enfin, je sais pas.
Moi, à une époque où je travaillais clairement trop, c'est que j'ai pris trop et c'était pas normal. Ouais. Donc en fait, c'était pas bien non plus, quoi.
Non, c'est sûr.
Et j'ai dû vraiment apprendre à la dure, en fait, que c'est pas normal de régulièrement bosser le week-end.
Tu bossais le week-end.
J'ai eu une période. C'était pas que tout noir, hein, parce que j'avais ce besoin de me prouver et je me suis prouvé des choses. Aujourd'hui, j'en tire des trucs cool. Mais c'était vraiment. J'ai mis longtemps à récupérer, quoi.
Oh, ouais.
Et je me suis vraiment fatiguée et je referais plus ça. Mm-hmm. Mais bref, ça, c'est une parenthèse, mais je veux dire, oui, soit tu t'es mal organisé, soit tu te fais complètement rouler, en fait.
Parce que félicitations, en fait. T'as rien gagné de plus que nous.
Ah non, moi, j'ai pas gagné plus d'argent.
Enfin, je veux dire.
J'ai eu un ou deux bonus, mais ils ça valait pas ça. Mais après, j'en avais parlé à mon patron avec qui en conférence. Je m'entendais bien et il avait une sensibilité. Puis il avait dit, nous, c'est pas que on dit il faut tant de projets par personne ou quoi, mais il dit on donne aux gens, puis s'ils prennent, on continue de donner, en fait. Et c'est là le problème. Et c'est pas que leur problème, c'est un problème sociétal. C'est pas une ambiance où on va t'aider à garder tes limites, en fait. Si t'es prêt à les transgresser, bah youpi.
Youpi, et puis une bonne poire.
Et si on est sympa, et dans ce cas-là, ils étaient sympas, on va te récompenser un peu et tout ça, mais ça peut pas tenir. Mm-hmm. C'est pas ok. Ouais, franchement, c'est pas ok.
Ouais, c'est pas une ambiance qui pense à bienveillante, qui pense à long terme, en fait. C'est plutôt. Ouais, c'est comme les machines, quoi.
C'est comme les machines.
Si on peut augmenter la vitesse et le rendement, bah.
Ouais. Et moi, je suis 100% d'accord avec toi et ton parallèle avec l'ère industrielle, mais je le vis vraiment comme ça, comme si je bossais dans une usine. Et tous les jours, je dois aller puncher à 8 heures.
Non, mais c'est hallucinant, alors qu'on est censé avoir eu des ordi puis gagner du temps. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait à la place?
Plus de temps sur Candy Crush.
Mais... Surtout avant Noël. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que le temps gagné, on l'utilise pour faire plus de choses.
Ou du présentéisme.
Ou du présentéisme.
Ah oui,
ça dépend de la situation, en effet. En effet, parce qu'en architecture, c'est juste la folie où t'as vu comment on construit, il y a des grues partout.
Ouais, ouais, ouais.
Donc en fait, avec tous les logiciels, tous les moyens, tu peux aller plus vite.
Mais il y a plus.
Et du coup, bah, on construit plus. Mm-hmm. C'est pas qu'on va à la plage.
Non.
Donc, si on prenait encore 20 ans pour construire une cathédrale, on irait beaucoup à la plage. Ouais. Et oui, je suis assez d'accord avec toi. Et je pense que une bonne conclusion si t'es d'accord. Oui, on n'a plus rien réformé ou mis à jour depuis l'ère industrielle, on a l'impression, quoi. Puis
là, il y a des gens qui parlent d'une semaine à 4 jours et c'est comme si c'était la fin du monde, quoi. C'est on va gagner moins. Peut-être pas, en fait, justement. Moi, j'avais vu ces chiffres aussi. Il y avait une étude aux États-Unis qui montrait que les gens pouvaient rester focalisés en moyenne que 30 secondes. Puis qui checkaient, je sais plus combien de fois par jour, un truc, leur mail et puis Facebook, tu vois. Bah oui, bah du coup, en plus, si on est méga surstimulé droite à gauche, forcément, hyper compliqué de créer des conditions. Et si c'est ça, vraiment, la moyenne, c'est pas possible de rester 8 heures d'affilée, ça, on est tout à fait d'accord. Et puis en plus, ça a été montré que faire des pauses, c'est bien. Et puis... Des petites pauses même, c'est très bien.
C'est en train de changer, pas le milieu de travail, mais la mentalité des gens. Je vois plein d'articles sur le Gen Z qui sont là en fait, no thanks. et on a parlé de ce truc que j'ai trouvé incroyable, de la démission tranquille, c'était quoi?
Ah oui.
Tu te rappelles de ça? En fait, la démission tranquille, c'était juste des gens qui allaient au boulot, faisaient leur taf et rentraient sans heure sup. La démission silencieuse.
Ouais.
Ils refusaient de donner 120%, en fait. Ils donnaient juste...
Ouais. Ce pour quoi ils avaient été engagés.
Et on appelait ça la démission.
Et on appelle ça une démission silencieuse.
Moi, j'ai cru, quand le terme est sorti, j'ai cru que ça parlait de gens, en fait, qui juste arrêtent de faire leur taf, mais continuent de se faire payer, tu vois.
Top, là, comment je fais ça, moi? C'est ça je veux.
Mais en fait, non, c'est juste des gens qui ont arrêté de se surinvestir et qui font juste leur job. Et on appelle ça la démission... silencieuse, attends, je vais...
Ouais, c'est le silence quitting ou un truc comme ça.
Le quiet quitting ou démission silencieuse est un phénomène qui consiste simplement à exécuter les tâches figurant dans sa fiche de poste. Que ton cahier des charges.
Comment ça?
Il peut encore pas une faire... fois, ce pourquoi t'as été engagé.
Non, mais ça, c'est pas possible.
Mais vraiment, tu m'étonnes qu'on soit fucked up, quoi. Tu m'étonnes qu'on ait de la peine et puis qu'on fasse... Enfin, que ça fasse des personnes non, mais... comme nous qui pleurons tous les midis à notre taf, quoi. Enfin, genre...
Non, mais ouais.
C'est
non, mais
vraiment...
C'est
mais le pire, c'est que j'avais d'autres témoignages d'amis qui bossaient 3 ou 4 jours par semaine et ils disaient qu'ils étaient assez motivés parce que du coup, ils étaient contents d'avoir un week-end plus grand et puis ils pouvaient condenser 3 ou 4 jours finalement. Ils faisaient ce qui était plus important et...
Non, puis au lieu de vraiment acheter des baby-foot et des tables de ping-pong, faut baisser un peu les heures et payer mieux les gens et...
Prendre des gens en plus et puis ouais.
Et ça ira bien, quoi. Cool.
C'était comment pour toi?
C'était très très cool.
Ouais, tu veux en dire plus?
Cool comment?
Je suis encore sur le coup de l'émotion. Je sais pas, je suis très contente d'être là, donc y a des choses qui sont sorties aussi en plus, c'est très spontané et très intéressant. Puis j'adore discuter avec vous, donc je suis gênée, j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'arrive pas à synthétiser tout le moment sur le moment.
C'est pas grave, tu peux nous écrire une lettre.
Oui.
Tu veux lire ton poème ?
Le Capital. Je me demande, Marx, ce que tu as écrit dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'après 200 ans, il survit, et plus que ça. Tellement ancré en nous, cette propagande en est devenue une chanson qu'on fredonne l'été. Une valeur mise sur un piédestal par la société. Il s'agit d'une machine engrenée. Il y a 2 siècles de cela, sans fin, sans limite, qui broie les meilleurs d'entre nous. Comme offrande au dieu de l'argent, tu donnes ta main, elle prend tout le bras. Tu vortex, ne remets pas ton existence en question. Seulement quand tu as touché abasourdi le fond.
C'était cool. Tu écris souvent?
C'était trop bien.
Non, pas souvent, mais j'aime bien.
J'ai aucune licence poétique et aucun avis sur la poésie en général, mais j'ai trouvé ça très pertinent. Et très cool.
Merci de partager.
C'était une réflexion après. Une petite illumination où je me suis dit « Ah, mais oui, ça n'a pas changé. »
Non, effectivement.
Un tout dernier truc que je voulais dire, c'est un compte Instagram Payton EPFL. Qui est sorti, je pense, en 2020 ou 2021, une espèce de genre MeToo et PFL. Enfin, c'est un truc de libération de la parole où des gens ont partagé des expériences sexistes, racistes qu'ils ont vécues. Il y a eu ce compte qui les diffuse. Si jamais moi j'ai partagé un truc dessus, il n'y a pas le nom et tout, mais ça m'a fait du bien de le faire. Et c'est juste basé sur des témoignages de gens. Puis c'est bien de faire ça. Merci Maria.
Merci Maria.
Merci les poissons sur bicyclette.
C'était trop chouette.
Très chouette.
Merci Coraline d'être revenue pour un...
Avec plaisir.
C'était Les Poissons sans bicyclette, le podcast féministe où rien n'est jamais trivialisé, podcast indépendant basé à Lausanne. La musique est faite par nous, Les Poissons, la distribution aussi, le montage. Et notre graphisme est fait par l'agence Lumiel à Tirana. Si vous voulez nous soutenir, parlez de notre podcast à votre entourage, partagez-le sur les réseaux sociaux, suivez-nous sur Instagram. Et si vous voulez nous aider à pérenniser le projet et à garder notre indépendance, vous pouvez nous soutenir financièrement sur patreon.com/lespoissonssansbicyclette ou dès 5 francs par mois, vous avez accès à du contenu exclusif et je crois qu'il y a déjà peut-être 3 à 4 épisodes qui sont exclusifs dessus.
Merci.
Bye.
Bye.
Ciao Coraline.
Ciao Lisa.